Le journal vous est apporté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un rapport explosif qu'on vous dévoile ce matin sur Europe 1. Une note du renseignement territorial qui nous ramène près de 4 mois en arrière. Au 10 avril dernier, lors du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon arrive 3e avec près de 22% des suffrages. 7 musulmans sur 10 lui ont accordé leur voix. Une tendance qui a interpellé le renseignement territorial. Bonjour William Molinier.
Bonjour Fanny.
Journaliste au service police-justice d'Europe 1 en direct avec nous. William, cette note, vous l'avez consultée en exclusivité pour Europe 1. Ce qu'elle révèle, c'est que des islamistes radicaux, dont les frères musulmans, ont encouragé à voter Mélenchon.
Oui, ils ont clairement tenté de peser dans la campagne. Des mots écrits noir sur blanc dans cette note confidentielle du renseignement territorial qui a été transmise jusqu'à l'Élysée. Le vote des islamistes s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon qui, selon les policiers, s'est attiré les faveurs de nombreux influenceurs communautaristes. En atteste un communiqué anonyme, non signé, qui a tourné sur les réseaux sociaux la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Il a été relayé par des prédicateurs fréristes, suivis de près par les services de renseignement. Parmi eux, l'imam Hani Ramadan, l'un des frères de Tariq Ramadan. Dans ce communiqué, il considère Jean-Luc Mélenchon comme, ce sont leurs mots, le moins mauvais des candidats.
Ce qui ressort aussi de cette note, William, c'est que la candidature d'Éric Zemmour, d'une certaine manière, a boosté le vote Mélenchon.
Oui, parce que pendant toute la campagne, les islamistes ont agité le foulard de l'islamophobie supposée de l'État, comme avec cette grille d'évaluation du collectif contre l'islamophobie qui a depuis été dissous et qui plaçait Jean-Luc Mélenchon comme le seul candidat fidèle à la laïcité. Or, si cette parole rigoriste a percé jusque chez les plus modérés, c'est en partie grâce à la candidature d'Éric Zemmour que les policiers qualifient d'allié aussi providentiel qu'involontaire, perçu comme ouvertement hostile à l'islam et qui donc aurait suscité une vive inquiétude parmi les fidèles. Reste que le renseignement français n'entrevoit pas d'alliance durable entre les islamistes et la NUPES, cette dernière étant considérée par les premiers comme toujours trop républicaine.
Merci William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les électeurs musulmans ont-ils véritablement été influencés par des islamistes? Comment réagissent-ils au contenu de cette note du renseignement territorial? Clément Barguin, vous vous êtes rendu à la grande mosquée de Créteil dans le Val-de-Marne pour leur poser la question.
Alors le premier réflexe des fidèles a été de refuser tout enregistrement de peur que leurs propos ne soient déformés. Hors micro, j'ai tout de même pu m'entretenir avec de nombreux pratiquants. Parmi eux, beaucoup admettent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour de l'élection présidentielle. D'abord m'ont-ils confié parce que c'était selon eux le candidat qui stigmatisait le moins la communauté musulmane, parce qu'il n'est pas opposé au port du voile dans l'espace public et selon eux qu'il défend les classes populaires les plus défavorisées. Ce qui ressort donc de mes échanges avec les membres de cette communauté musulmane de Créteil, c'est qu'il y a eu pour eux un véritable engouement autour du candidat insoumis pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'il s'y est ajouté une influence de la part de prédicateurs ou d'imams proches des frères musulmans? Difficile à dire, les personnes avec qui j'ai pu échanger m'ont tout affirmé qu'elles n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'islam radical.
Clément Barguin.
Il est 8h05 sur Europe 1. Faut-il créer une nouvelle instance pour débattre des grands sujets de la nation? Emmanuel Macron l'a promis lors de l'élection présidentielle. Le Conseil national de la refondation doit être porté sur les fonts baptismaux le 8 septembre.
Oui, plus facile à dire qu'à faire, hein, visiblement. Ce CNR n'est pas encore lancé, qu'il est déjà boudé. Un certain nombre d'élus, dont le troisième personnage de l'État, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne joueraient pas le jeu Alexis de la Fontaine.
Oui, Gérard Larcher a jeté un pavé dans la mare en refusant totalement de participer à ce rassemblement. Le président du Sénat accuse Emmanuel Macron de vouloir contourner le Parlement avec cette nouvelle assemblée. Mais Gérard Larcher n'est pas seul, en dehors de la majorité, à droite comme à gauche, personne ne veut participer au Conseil national de la refondation, comme Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national.
Tout simplement parce que c'est une mascarade. Le président de la République, il est garant des institutions. Et le lieu pour discuter des sujets que le président souhaite aborder, c'est le Parlement. Il n'y a aucune raison en fait, de créer une espèce de nouveau machin qui va être en surplus de ce qui existe déjà.
Les élus locaux sont également très sceptiques devant le manque de concertation et d'organisation à 10 jours seulement de l'événement. Alors les associations des régions, départements et maires de France feront le strict minimum, tandis que certaines n'ont même pas été conviées. De son côté, l'Élysée ne souhaite pas rentrer dans les polémiques et précise ne pas connaître la liste définitive des invités.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Notez par ailleurs que dans le contexte actuel de crise énergétique, Emmanuel Macron présidera vendredi matin un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité en vue de l'hiver prochain.
La crise énergétique, la crise économique, le Covid, autant de paramètres qui perturbent le marché de l'emploi et notamment le recrutement des cadres.
84% des patrons craignent d'avoir encore plus de mal à embaucher dans les mois à venir. C'est ce que révèle le baromètre de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Car les candidats sont de plus en plus exigeants. Salaire, conditions de travail, les entreprises doivent redoubler d'efforts pour les séduire, Margot Faudéré.
Pour remplacer le directeur de son usine de matériaux, Laurent Kopp a dû s'armer de patience et utiliser toute une palette d'arguments. Il a mis plusieurs mois à trouver un cadre prêt à déménager dans le Val-de-Loire.
Ça faisait à peu près un an que je cherchais quelqu'un. Pour faire venir cette personne, nous avons mis en avant les avantages salariaux, c'est-à-dire l'intéressement, les chèques vacances, le 13e mois, le PRP, mais aussi la prime Macron. Nous avons aussi laissé la possibilité à ce cadre de haut niveau de pouvoir travailler de temps en temps en télétravail. On ne l'oblige plus à être en permanence sur son lieu de travail.
Comme Laurent Kopp, des milliers d'entreprises peinent à recruter des cadres particulièrement exigeants avant d'accepter une offre d'embauche. Louis a démissionné en avril dernier d'une société du digital avec un objectif en tête, trouver un emploi plus stimulant et plus flexible.
J'ai voulu me tourner vers une autre entreprise pour aller chercher quelque chose de nouveau, qui allait me relancer intellectuellement, accompagner des conditions de travail avec le télétravail, la proximité des bureaux et un ensemble d'autres conditions qui rendent le travail optimal.
Malgré ces critères très précis, Louis a signé un nouveau contrat en moins de 2 mois car pour attirer ses profils qualifiés, les entreprises sont prêtes à faire monter les enchères. Alors qu'elle quittait un poste bien rémunéré dans une étude notariale, Sandra a eu des offres encore plus séduisantes.
J'ai eu des opportunités de travailler dans la même branche d'activité avec des salaires plus élevés. J'aurais pu recommencer à travailler dans une autre étude en fait.
Mais elle a préféré s'installer en libéral pour travailler selon ses propres conditions. 2 millions de Français ont choisi le statut d'auto-entrepreneur pour les mêmes raisons.
Margot Faudéré.
La guerre en Ukraine et une contre-attaque ukrainienne en cours dans le sud du pays.
Objectif, reprendre la ville de Kherson tombée aux mains des Russes dès le début du conflit. Les forces ukrainiennes ont annoncé des succès ponctuels. Les Russes assurent leur avoir infligé de lourdes pertes.
Voilà un conflit dont les conséquences sont mondiales et qui transparaît même. Ce n'est pas banal. Hein. Dans un film d'animation, les nouvelles aventures de Gulliver.
A priori, dessin animé tout simple, tout mignon au pays des Lilliputiens. Sauf que parmi les producteurs de ce film, il y a un certain Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ancien comédien, avait lancé ce projet il y a 15 ans. Mais à la lumière de la guerre en Ukraine, cette fiction prend des airs d'outils de propagande politique, Marie Jiquel.
Dans cet épisode très connu des aventures de Gulliver, les Lilliputiens parviennent à repousser, malgré leurs 15 cm de hauteur, leurs envahisseurs. Morale de l'histoire, il est possible de réaliser de grandes choses, même en étant petit. Et forcément, ça résonne avec l'actualité. Maxime Boslov, du studio d'animation 95, a travaillé sur le film.
C'est la même chose que ce que l'on voit dans notre vie. Mais à l'origine, bien sûr, lorsque nous l'avons créé, personne ne pensait à une possible guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Distribué dans 70 pays, le dessin animé s'avère un excellent outil de communication, selon Gallagher Fenwick, biographe du président Zelensky.
L'équipe communique beaucoup sur la présence de Zelensky au sein du projet. Le fait de faire sortir à l'international, de faire reverser les recettes à des œuvres caritatives, ça va forcément être un coup de pub qui va très vraisemblablement marcher.
Coloré, dynamique et un brin humoristique, ce Gulliver, tant rêvé par Zelensky, devient le film d'animation ukrainien le plus diffusé à l'étranger.
À découvrir dès aujourd'hui. Marie Jiquel.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Fabien Roussel, le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste, est l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite.